Tout de suite, ce qu'il faut savoir avant de parler pognon et pauvreté.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif.
Emmanuel Macron, président de la République.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Trop de pognon. De quel pognon parle-t-il? Du nôtre, du vôtre.
Benoît Hamon, fondateur de Génération.
Vous cotisez pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir être indemnisé le jour où vous êtes au chômage. Vous cotisez, cet argent est le vôtre. Et s'il remet en cause demain cette protection sociale, cela veut dire qu'il ponctionne directement dans votre salaire.
Quand on dit on dépense un pognon de dingue sur les minima sociaux, pour pas de résultat, c'est pas vrai.
Jean-Charles Simon, économiste.
Si l'objectif c'est d'avoir un écart de revenus relativement modeste entre par exemple le premier décile et le neuvième décile, c'est réussi. L'exception française qui fait qu'on est à 32-33% de dépenses publiques sociales sur le PIB, c'est parce qu'on veut faire pour tous les revenus moyens et supérieurs de la redistribution obligatoire.
Il faut reconnaître que derrière des intentions positives, il y a des aides qui sont contre-productives.
Sacha Houlier, député La République En Marche.
C'est-à-dire qu'elles vont créer des trappes à pauvreté, des trappes à inactivité, et finalement, ne pas permettre aux gens de s'en sortir.
Ce qu'il nous faut faire, c'est réinvestir dans la personne, c'est accompagner davantage, c'est responsabiliser plus, et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité. Il nous faut sortir, sur tous ces sujets, d'une logique de guichet, pour une logique d'accompagnement.
Mais moi, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les pauvres.
Laurent Berger, secrétaire général CFDT.
Je vais vous dire franchement, je ne connais pas une personne qui se satisfait d'être en situation de pauvreté. J'en ai jamais vu. J'ai vu des gens qui, parfois, n'étaient plus accompagnés, se désespéraient et n'arrivaient plus à trouver le ressort pour s'en sortir. Et cela, ça nécessite des moyens en termes d'accompagnement.
L'idée pour moi du programme de Macron, c'était je libère l'économie pour qu'on innove davantage, mais en même temps, je vais généraliser la protection sociale. Tout ça doit se faire.
Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France.
Si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. Et il ne faut pas faire la même chose chez nous.
Un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, est-ce que c'est globalement vrai? On va détailler. Ou globalement faux, Emmanuel?
C'est globalement vrai qu'on dépense beaucoup d'argent. Hein, si vous prenez l'ensemble des prestations sociales, alors au sens large, hein, parce qu'il a dit l'ensemble des prestations sociales.
Alors il a dit deux choses. Là, je parle des minima sociaux.
Alors les prestations sociales dans son ensemble, c'est à peu près 700 milliards d'euros. Mais là-dedans, il y a la santé, il y a les retraites, etc. Si on se cantonne sur un champ plus restreint, qui est celui vraiment des aides sociales, on est plutôt sur une centaine de milliards d'euros. Donc oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est parfois un peu plus que ce qu'on dépense à l'étranger. On pourra revenir sur les chiffres, mais ça produit quand même des résultats, incontestablement.
Christian Chavagneux.
Si on prend les dépenses sociales dans son ensemble, c'est à peu près un tiers, l'équivalent d'un tiers de la richesse produite, un tiers du PIB. Si on prend
700
les dépenses,
milliards donc,
700 milliards, mais si on les prend par habitant, parce qu'il faut quand même aussi comparer ce qui est comparable avec la taille des populations, la France est cinquième rang au niveau européen, derrière l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et l'Espagne. Donc on n'est pas les sur-dépensiers en termes sociaux, on pourrait faire mieux. Si on se concentre vraiment sur les minima sociaux, c'est-à-dire le RSA qu'on donne à ceux qui n'ont rien, la prime d'activité pour ceux qui commencent à travailler mais qui ne gagnent pas assez, là on est plutôt sur 25 milliards d'euros par an et en gros c'est 1% du PIB, donc vraiment c'est pas énorme.
La pauvreté, je voudrais qu'on fasse la photo, combien, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est on n'arrive pas à sortir les gens de la pauvreté, donc aujourd'hui la pauvreté en France c'est combien de millions de personnes, quelle proportion de la population, Christian?
Alors, la pauvreté, il y a plusieurs façons de la mesurer, en France traditionnellement c'est les gens qui gagnent moins que 60% du revenu médian. Le revenu médian c'est la moitié des Français gagnent plus, la moitié des Français gagnent moins, donc quand on prend ça on a 8,8 millions de personnes qui sont vraiment dans une situation
donc,
de pauvreté.
Donc on est à 1015 euros, c'est ça le seuil de pauvreté?
C'est plutôt autour de 1000 euros, ouais, c'est plutôt autour de 1000 euros. Ouais. Les deux plus gros groupes, avec environ 20% chacun, c'est les couples avec plus de 3 enfants et les personnes seules. La moitié ont moins de 30 ans. Un tiers ont moins de 20 ans. Donc la situation des pauvres, oui, il y a des retraités qui sont dans des situations difficiles, mais le gros contingent des pauvres en France, c'est plutôt des jeunes.
Emmanuel Le Chypre, on n'arrive pas à empêcher les gens de tomber dans la pauvreté, on n'arrive pas à les aider à en sortir, c'est ça?
Alors, la caractéristique un petit peu du modèle français, c'est que si vous regardez ce qui se passe avant aide sociale, c'est-à-dire globalement ce qu'on appelle avant redistribution, La France aujourd'hui est un des pays dans lequel les écarts entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus sont les plus importants. En revanche, quand vous corrigez des effets de la redistribution, c'est un des pays dans lequel les écarts sont les moins importants. Donc cette redistribution, elle a quand même des effets. S'il n'y avait pas de redistribution, vous auriez aujourd'hui 22% des Français qui seraient considérés comme pauvres. Avec la redistribution, vous en avez 14%. Donc ça veut dire qu'il y a 5 millions de Français qui sont quand même maintenus hors de la pauvreté par ces aides sociales. Et puis, il faut regarder aussi par rapport à ce qui se passe en Europe. Et quand vous regardez par rapport à ce qui se passe en Europe, alors, comme l'a dit Christian, comme c'est vrai que le seuil de pauvreté est défini en fonction du revenu médian, si vous regardez en euros, le seuil de pauvreté n'est pas le même dans tous les pays européens, ce qui complique un peu la lecture. Mais globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ça c'est les statistiques de la Commission européenne, le niveau de pauvreté est le plus bas en Europe, derrière des pays comme les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark, mais qui sont des petits pays. Ça veut dire que si on prend les grands pays de l'Union européenne, la France est objectivement le pays dans lequel le niveau de pauvreté est aujourd'hui le plus faible.
Christian Chavagneux.
Oui, la France comporte beaucoup moins de pauvres que le reste des pays développés. Il y a 16,5% de pauvres en Allemagne, il y en a 17,3% en moyenne dans l'Union européenne. Emmanuel l'a dit, en France on est plutôt à 14%. Et on est le pays où le niveau de vie moyen des pauvres est le plus proche du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que nos pauvres sont moins pauvres que les pauvres des autres pays. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté, que mesure la Commission européenne ou le CDE, je ne sais plus. Mais ça veut dire que nos pauvres, grâce au système social, grâce à la redistribution, ils sont mieux lotis, si je puis dire, que ceux des autres pays européens.
Emmanuel. Alors,
sachant que le sujet, c'est aussi, une fois qu'on est pauvre, comment on en sort ou où est-ce qu'on y reste très longtemps.
C'est ce qu'il y avait dans la petite vidéo Twitter, c'est on dépense beaucoup d'argent. Alors ça, vous nous avez dit quand même qu'on dépense pas tant d'argent que ça. Vous nous dites qu'on arrive à empêcher des gens de basculer.
Donc c'est deux mensonges du président déjà. Il a dit ça coûte cher, c'est pas vrai, c'est inefficace, c'est pas vrai. C'est ce qu'on vient de dire tous les deux.
Hein. Alors, vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. En revanche, Emmanuel, une nuance sur
non.
Pour sortir les gens de la pauvreté.
Oui,
c'est son exemple du RSA.
Je crois que c'est ça le sujet. En fait, il faut voir, si vous regardez en France les générations, vous apercevez que globalement, vous avez 25% des Français qui subissent un déclassement par rapport à leurs parents. Vous en avez 25 qui subissent une augmentation de leur catégorie sociale et vous en avez 50 qui ne bougent pas. Et alors, il y a une étude qui a été publiée hier par l'OCDE et qui justement, encore une fois, faut toujours ramener aux comparaisons internationales. Et elle nous dit quoi, cette étude? Elle nous dit qu'il faudrait en France 6 générations, c'est-à-dire 180 ans, pour que le descendant d'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. 6 générations, c'est plus quand même que la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 5 générations, sachant que là-dedans, les champions, c'est les pays scandinaves dans lesquels il faut à peu près 2 à 3 générations seulement pour que quelqu'un de pauvre atteigne le niveau de vie de la moyenne et que les pires, ce sont des pays d'Amérique latine. Donc on voit bien quand même que la France n'a pas une bonne performance en matière de mobilité sociale.
Vous êtes en train de nous parler, c'est le retour de l'ascenseur social ça.
L'ascenseur social, c'est vrai que quand vous faites les comparaisons international, on voit que l'ascenseur social en France, il ne fonctionne pas.
Alors comment Emmanuel Macron veut relancer l'ascenseur social si on vous suit? Lui, il dit il faut responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté, il ne faut pas avoir seulement une réponse financière, il faut émanciper par le travail. Là, le spécialiste de l'économie politique Christian Chavagneux, que veut faire le chef de l'État?
Les pauvres, ils sont tellement irresponsables qu'en gros, il y a 30% de gens qui ne vont même pas demander les aides. Vous voyez, c'est complètement
irresponsable. Bon, là, c'est l'ironie, c'est le non-recours.
C'est le non-recours, 30% de non-recours pour le RSA, ce qui permet quand même d'avoir, je rappelle, le RSA aujourd'hui c'est 551 euros par mois. Alors quand vous avez le droit au RSA, vous avez le droit à d'autres aides, notamment des aides au logement, ce qui fait que vous avez à peu près entre 800 et 900 euros par mois. Emmanuel Macron nous dit 800 à 900 euros par mois, on reste tranquille à la maison, rien faire, on ne cherche pas du travail. C'est complètement, mais je ne sais pas dans quel monde, je sais dans quel monde il vit le président de la République. Il ne vit pas du tout dans la France. Pourquoi? Parce que les jeunes et les femmes acceptent des petits boulots mal payés. C'est ça la réalité. Pratiquement la moitié des chômeurs aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle les catégories B et C, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé un peu moins de temps par semaine, un peu plus de temps par semaine, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à travailler vraiment tout ce qu'ils veulent travailler, et leur nombre a doublé en 10 ans. Donc c'est aussi, les gens restent pauvres parce qu'on ne leur donne pas des emplois qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Alors avant le RSA, ça s'appelait le RMI, le revenu minimum d'insertion, donc l'étude date un peu parce que c'était sur les gens qui étaient au RMI, mais en tout cas cette étude sur les bénéficiaires du RMI, elle nous disait quoi? C'est des gens actifs dans la recherche d'emploi, qui refusent rarement un emploi et encore plus rarement pour des motifs financiers. Donc cette image de la pauvreté où les gens restent tranquilles à toucher les minima sociaux, je ne sais pas où le président de la République a été chercher ça, mais c'est le troisième mensonge du président de la République.
Emmanuel Le Chypre.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, je pense qu'il y a un procès qui est fait à Emmanuel Macron sur cette idée qu'il faut laisser les pauvres se débrouiller tout seuls, etc. Et qu'en gros...
C'est pas qu'il faut laisser se débrouiller tout seuls, il faut les emmener au travail.
Bah, c'est quand même une vision, on lui prête une vision extrêmement libérale qui n'est
pas...
Qu'il
a dit, Emmanuel, non,
qui n'est
il
pas,
a dit, il a dit qu'il faut faire plus d'accompagnement à la réponse financière. Excusez-moi, je fais juste le verbatim, je ne suis pas dans la prise de position.
On voit bien
faire
que c'est
plus
la clé.
D'accompagnement.
On voit bien que c'est la clé, entre parenthèses. Quand vous prenez des départements différents qui distribuent, par exemple, les minima sociaux, vous voyez que dans les départements où vous n'avez pas d'accompagnement, prenez par exemple les Bouches-du-Rhône, le résultat en matière d'insertion est terrifiant. Donc, oui, l'accompagnement, c'est la solution. C'est pas toute la pensée d'Emmanuel Macron, c'est pas libéral. Et je pense qu'il faut revenir deux secondes sur cette fameuse notion d'égalité des chances, parce que c'est quand même ça la
l'émancipation,
philosophie d'Emmanuel
l'égalité
Macron.
Des chances.
L'émancipation,
ouais.
Ça vient de très loin. Hein. Déjà, on nous disait Condorcet disait, c'était en 1791 que voilà, il fallait que les termes d'égalité réelle, ils commencent là. Après, vous avez les travaux d'Armatia Sen dans les années 60-70 qui disent attendez, ça suffit pas de considérer qu'on résout les problèmes d'inégalité des chances en faisant de la redistribution. Parce que même si vous donnez la même somme à des catégories sociales différentes, elles n'en feront pas le même usage et elles n'auront pas la même possibilité de choix au final. Le socialisme de l'émancipation, c'est Dominique Strauss-Kahn dans les années 2000, etc. Donc ça vient de loin, et ça vient quand même de cette idée que c'est pas avec la redistribution qu'on résout les problèmes. En gros, la redistribution, si vous voulez, c'est l'infirmière qui vous donne l'aspirine pour calmer votre douleur. Mais c'est pas le médecin qui vous soigne. Et le médecin qui vous soigne, ça passe quand même, que Christian le veuille ou non, par le retour massif au travail, parce que c'est quand même ça le premier facteur d'insertion. Et alors après, avec tout ce qui en découle, la formation, l'éducation qui joue évidemment...
Mais on voit bien qu'il y a une logique d'économique pour financer cet accompagnement, ne serait-ce que pour financer tout ce qu'il dit.
Mais tous les pays scandinaves, on a dit qu'ils étaient si performants.
Il y a une logique d'économie.
Qu'est-ce que veut faire le gouvernement? Rappelez-vous quand même la séquence gouvernementale de ces dernières semaines. Au début, vous avez Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui disent « il y a trop d'aide sociale en général ». Tollé. Donc Darmanin dit, non, les gens cassés par la vie, je cite, on va continuer à les aider. Ça veut dire quoi? Les handicapés, les personnes âgées dépendantes, les parents isolés, on va pas toucher. Qu'est-ce qui restait? Il restait le RSA et la prime d'activité. Le RSA pour les plus pauvres, la prime d'activité. Darmanin nous dit, ça coûtait 4 milliards, maintenant ça coûte 6 milliards, c'est inefficace.
Mais là, il a retrouvé ses vieux réflexes de droite.
C'est l'inverse. Le fait de passer de 4 à 6 milliards, c'est parce que la procédure est plus simple que les mécanismes antérieurs, donc il y a moins de non-recours. Et deux, ça accompagne les gens qui reviennent dans l'emploi, mais comme ils sont mal payés, ça veut dire que il faut les aider plus, mais ça veut dire quoi? Que les gens reviennent dans l'emploi, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ils ne restent pas dans la pauvreté. Emmanuel nous dit c'est l'emploi. Les gens, ils reviennent dans l'emploi. Et après, le président de la République, quand il nous dit ça suffit pas de la redistribution monétaire, c'est que c'est pas soit on les aide avec de l'argent, soit on les accompagne dans l'emploi. Il faut faire les deux. Il faut d'abord les sortir de la mouise dans laquelle
ils sont. Il a pas dit autre chose.
Oui, mais quand on lit bien le texte, quand on regarde bien la vidéo du texte à la mutualité à Montpellier jeudi dernier,
on met trop de pognon, on déresponsabilise. On est dans le curatif.
Dans les dépenses publiques, il va couper la prime d'activité. On a dit non, finalement, on n'y touche pas. Il va couper quoi? Dans le RSA. Et à l'inverse, il dit mais attendez, je vais faire d'autres politiques. Les demi-classes de CP dans les ZEP, ok, mais Louis Morin, qui est le directeur de l'Observatoire des inégalités, nous dit ça concerne 8% des classes et un quart des plus démunis. Et à côté de ça, les aides au logement, c'est énorme. Et l'année dernière, on avait quoi? 5 euros, juste fini Emmanuel, 5 euros de moins pour les aides au logement. Et cette année, beaucoup plus malin le gouvernement. Il nous dit « Ah, mais cette année, je fais rien sauf qu'il désindexe les aides au logement » de l'évolution des prix. Et donc, ça veut dire quoi? 1,8% d'augmentation en moins sur une aide au logement à peu près...
Non mais...
Attendez, je finis sur une aide au logement...
Allez-y, il reste 30 secondes.
À peu près 231 euros, ça veut faire qu'ils vont baisser les aides au logement cette année de 4 euros. Mais cette fois, on ne l'annonce pas, beaucoup plus malin.
Non, mais
d'un côté, on va aider les pauvres,
Christian,
de l'autre côté,
Christian,
on leur
Christian,
coupe
Christian.
Encore les aides au logement.
Je pense qu'on lui fait un mauvais procès sur sa vision et sur les intentions. Moi, ce qui m'a gêné dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne nous donne pas la queue d'une piste sur la façon dont on va vers cette fameuse égalité réelle. Alors on nous promet, oui, il va y avoir réforme des retraites, oui, il va y avoir des choses sur l'éducation, la formation, mais je veux dire, sur la santé, par exemple, exemple, dont on n'a pas encore parlé.
Bah si, c'est le reste à charge zéro.
Oui, mais c'est pas avec le reste à charge zéro, qui est très important pour un certain nombre de familles, qu'on va résoudre les problèmes d'accès aux soins, etc., etc. Donc je trouve que pour le moment, l'arsenal qui nous est présenté pour résoudre tous ces problèmes
est
extrêmement faible, et que je suis d'accord avec Christian sur ce point. On attend d'avoir les réponses, et pour le moment, on a eu droit qu'à une espèce de programme de travail, mais on n'a pas beaucoup de réponses sur toutes ces pistes.
Mais c'est pour ça qu'on est là chaque semaine, Emmanuel. Merci, allez, on referme ce dossier puisque chaque semaine nous y revenons et on essaie de trouver les pistes et les indices. L'économie comme elle se passe ailleurs. Ce matin, je vous propose de partir nous détendre ensemble au Canada.
Le gouvernement Trudeau veut rendre le Canada plus sécuritaire en légalisant le cannabis à usage récréatif.
Bonjour Pascal Guéricola.
Bonjour Alexandra.
Pascal, le Canada, oui, est en train de légaliser le cannabis à des fins récréatives et plus seulement thérapeutiques. Ça doit se concrétiser cet été et le Canada deviendra ainsi le premier pays du G7 à franchir le pas. L'objectif affiché, c'est de protéger les jeunes. Ce faisant, il faut réglementer le marché pour en sortir les trafiquants et il faut donc tout inventer, hein, les nouveaux canaux de production, de distribution et de vente.
Oui, exactement. Et ce qui complique un peu plus l'affaire, c'est que le Canada étant un pays fédéral, une partie de l'application de la nouvelle législation revient aux provinces. Alors, par exemple, le gouvernement central décide de la légalisation de cette drogue, mais sa vente incombe au Québec, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux autres, tout comme le volet prévention. Alors, par exemple, au Québec, ça va être une filiale d'État qui va gérer la vente du cannabis, tout comme d'ailleurs on gère ici la vente d'alcool. 15 magasins sont prévus au Québec la première année, 100 par la suite. Au début de l'année, on a également décidé du partage des revenus. Le fédéral gardera 25% des recettes, les provinces les trois quarts, parce que ces dernières devront par exemple mettre en place de nouveaux contrôles policiers pour tester les facultés des conducteurs ayant peut-être fumé un dernier joint pour la route. Alors, ceci dit, Alexandra, tout le monde n'est pas encore forcément au diapason. Le Québec, notamment, ne veut pas de culture du cannabis à domicile, alors que le premier ministre canadien insiste, il faut que les particuliers aient le droit de faire pousser 4 plants sur leur balcon.
Pascal, vous parliez de recettes fiscales. Est-ce qu'on a une idée des revenus que le Canada pourrait tirer de la vente de la marijuana ?
C'est difficile d'avoir des chiffres clairs sur un marché qui reste pour l'instant illicite. Selon certaines estimations, les Canadiens dépensent environ 4 à 5 milliards d'euros chaque année pour se procurer cette drogue. La légaliser pourrait donc générer environ 1,5 milliard d'euros dans les coffres de l'État. On calcule là-dedans les taxes de vente sur le produit, mais aussi l'activité économique générée. On pense notamment au salaire des employés à la production, à la vente, les impôts sur bénéfices. Alors pour vous donner un exemple, un des plus grands joueurs sur le marché, Canopy Growth, qui emploie actuellement 700 personnes pour de la marijuana thérapeutique, eh bien, eux, ils ont lancé des offres d'emploi aux quatre coins du pays. Donc, ça voudrait dire que le marché devrait donc beaucoup progresser dans ce secteur.
Pascal Guéricola avec nous depuis Québec. Merci à vous. Merci aux débatteurs Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux.
Allez, la France.
Allez, vous pouvez aller mettre vos maillots de foot, c'est bon. À venir avant 10h, mon invité, Laurent Habib, le patron de l'agence Babel, pour parler marques, com et pub. Et tout de suite, le panneau publicitaire qui vous regarde, qui vous reconnaît, qui vous compte, ce sont les nouveaux territoires de la pub.